Un tango, une danse, un baiser et un sourire.
Par les temps qui courent.
Ça y est, plus 21h.
Marie Richeux.
Il y a des figures qui nous ouvrent des portes, justement. Parfois, ces figures, ces êtres ne le savent même pas. Quelque chose a lieu pour nous, sans qu'on le sache.
Dans le chagrin de la perte, beaucoup de larmes se mélangent. À l'inverse, dans les larmes, beaucoup de chagrins peuvent parfois se pleurer en même temps. Il en va de même pour le manque. En écrivant la manière dont votre personnage Rosa Panthère pense à James, un magicien éleveur de canaris perdu dans le grand monde, vous sondez, Manuel Guattari, les mystères de l'attachement. À quoi, à qui est-on attaché et par quel lien? L'enfance, les parents, l'amoureux, l'idée de l'amoureux ou une partie de soi-même? Rosa Panthère, c'est le titre de votre dernier roman paru aux éditions Mercure de France. Bonsoir, Emmanuel Guattari.
Bonsoir, Marie Richeux.
Et merci d'être là.
Merci à vous.
Les bouteilles s'ouvrent comme ça, chez nous. À la vôtre.
Merci beaucoup.
Je suis Rosa Panthère. C'est James qui m'a appelé comme ça pour la première fois. Quand il me faisait danser dans les intermèdes de ses acrobaties pour son petit cirque. Ça m'est resté ensuite. Plus tard, lorsque je suis venu embaucher au moulin, j'avais déjà un nom qui sonnait bien. On m'a toujours appelé comme ça. Je ne suis jamais parti. Je suis resté là. J'aime qu'on me regarde. J'ai toujours aimé danser. James savait faire toutes sortes de choses et il parlait aux bêtes. Les bêtes l'écoutaient. Les oiseaux surtout l'écoutaient. Voici l'histoire de James tandis que je suis devenue Rosa Panthère. Rosa, Rosa, Rosa. Il disait que quand on prononçait Rosa, 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 les mots restaient en l'air et y formaient un bouquet suspendu qu'on pouvait voir. Quand il part, toujours je le regarde qui s'éloigne. Personne ne marche comme James dans son costume. Ce truc des hommes de n'avoir pas de sac, de juste avoir ce qu'il faut dans les poches. Pour ne pas porter trop de valises, parfois, il enfile 3 ou 4 chemises et 2 pantalons l'un par-dessus l'autre. James sait retourner ses paupières pour me faire peur et fait le zombie en tendant les bras et en marchant vers moi en titubant. Parfois, l'absence de James est insupportable. Puis lentement, comme un animal entravé et vaincu, la frustration s'assourdit. Je me persuade que James n'est qu'une idée.
Emmanuel Guattari, voici 3 extraits de votre roman Rosa Panthère. Les 2 premiers sont pris quasiment au début du roman pour faire apparaître à la fois Rosa Panthère et James. Et puis le paragraphe que Romain de Bec-de-Lièvre lit un peu plus loin est un peu plus loin dans le roman. Alors est-ce qu'on peut essayer de donner une forme de présentation de Rosa Panthère avant de parler de James? Puisque plane sur James peut-être l'idée qu'il soit juste une idée.
En tout cas, Rosa Panthère, danseuse, raconte l'histoire de James, élégant jeune homme dresseur d'animaux qui a disparu dans un naufrage, qui est réapparu sauvé par un chalutier et qui alors décide de ne plus jamais revenir. Donc dans ce sens-là, la narratrice, c'est Rosa. Donc c'est elle qui est l'héroïne narratrice de ce livre et qui, à travers cette narration, va rendre compte de son propre exil sur place. En fait, cet engagement qu'elle vit, avec lequel elle fait un parallèle avec le sort des oiseaux avec lequel James travaille. Et surtout cette espèce de talent qu'il a d'obtenir des oiseaux, une espèce de dévouement éperdu et amoureux et voilà. Donc en fait il y a une sorte d'identification de Rosa aux oiseaux en l'occurrence et Rosa Panthère. Je dois dire que je voulais à travers ce surnom que lui donne James, puisque c'est
lui qui la nomme.
C'est lui qui la nomme, avec tout ce que tout ce qu'apporte le fait d'être nommé, y compris dans l'histoire du monde, l'histoire du monde des animaux aussi, puisque c'est nous qui les avons nommés et qui, quelque part, leur donnons des mots et de la parole. Et quoi qu'il en soit, je voulais rendre hommage. J'avais été très frappée par le poème de Rilke, La Panthère. Et j'ai saisi un certain nombre de mots de ce poème magnifique qui décrit l'enfermement tragique d'une panthère hein, au jardin des plantes.
Ah non,
au jardin des plantes. Et dont je peux vous donner quelques lignes.
Oui, je veux bien, j'allais dire. Qu'est-ce qu'il dit, ce poème?
Il dit, son regard du retour éternel des barreaux s'est tellement lassé qu'il ne saisit plus rien. Il ne lui semble voir que barreaux par milliers. Et derrière 1000 barreaux, plus de monde. Et alors, j'ai voulu saisir un certain nombre de mots de ce poème à travers lesquels j'ai écrit ce livre. Et parce qu'il y a une interpellation dans notre société très très forte au sujet de la question animale, à la fois par un très très vif militantisme, mais aussi une recherche philosophique qui regarde aussi ce militantisme. Hein, Elisabeth de Fontenay regarde et écoute et travaille aussi sur ce matériau qui est un peu jeté à notre figure pour nous conscientiser sur le sort qui est fait aux animaux dans notre société. Et il y a aussi une recherche scientifique, notamment éthologique, qui nous invite à regarder autrement les animaux et leur être. Et moi, je sais que ça m'a beaucoup interpellée. Et donc, voilà, il y a dans Rosa Panthère tout un écho à cette nouvelle pensée.
Voir un écosystème, j'ai envie de dire, tellement en effet, qu'elles soient métaphoriques ou qu'elles soient réelles, les présences animales, elles sont omniprésentes du début jusqu'à la fin, y compris dans la manière dont vous décrivez l'attachement, l'amour, le désir. Quelque chose de l'animal est toujours là.
C'est vrai, et les animaux sont toujours là. Le seul papier que j'ai apporté, c'est une espèce de liste que m'a donné une lectrice qui m'a dit « Il y a tellement d'animaux dans votre livre. » Elle en avait compté 46.
Ah ouais.
et donc ils sont véritablement dans ce que j'appelle le décor humain, et ce décor que j'ai décrit dans d'autres livres. Et d'ailleurs, les animaux en filigrane sont déjà présents dans mes précédents livres, y compris le souci d'un autre James, notamment dans un livre qui s'appelle Ciel de Loire, sur le destin qui est fait aux animaux vendus au marché vif pour ensuite être mangés et qu'il essaye de sauver et met dans la baignoire de l'appartement familial pour essayer d'en sauver le plus possible. Et donc elle me disait, c'est incroyable, dans votre livre il y a rossignol, bourdon, singe, ara, corneille, cheval, vipère, girafe, lion, crapaud, lapin, etc.
Voilà. Et avec étonnement, vous l'avez reçue, cette liste?
Oui, parce que, en fait, je ne m'étais jamais fait de liste, au vrai. Je savais qu'il y avait des animaux, mais ça n'avait pas été... Il y a plusieurs pages où il n'y a pas d'animaux. Je n'ai pas dit dans chaque page je vais mettre un animal, ni même dans chaque petit chapitre. Il y a des petits chapitres qui n'ont pas d'animaux. Donc, il n'y avait pas de systématisme, il n'y avait pas une recherche. Ça a été... C'est pas, parce que je pense que pour moi, ils sont dans le décor. Et je pense que c'est quelque chose peut-être dont on pourra reparler. Mais il me semble qu'il faut aujourd'hui, plus que jamais, prendre conscience de la présence des animaux. D'abord parce qu'on leur laisse de moins en moins d'espace. Hein, parce que nous avons beaucoup véritablement dominé la planète et colonisé les espaces. Et les espaces sauvages se réduisent pour les animaux sauvages. Et les autres se débrouillent comme ils peuvent, parfois en revenant dans nos villes ou en s'accommodant de nos modes de vie assez invasifs. Voilà.
Quand vous dites « ils sont dans le décor », on entend que cette phrase-là, elle est très importante pour vous, Emmanuel Gattari, dans l'écriture. C'est-à-dire qu'un livre commence pour vous dans une forme de prise en compte du décor ou de son invention.
En tout cas, je suis très sensible au décor. En tout cas.
Voir au lieu, on y reviendra.
Oui, je suis très sensible au lieu et je pense qu'on est absolument... Moi j'ai une très grande sensibilité au lieu et aux lumières, au ciel auquel j'ai rendu hommage. Je suis tout à fait en prise avec ce décor. J'ai beaucoup de mal à m'en abstraire. Hein, j'y puise beaucoup de choses très positives aussi.
Un livre commence comme ça, avec une idée d'un décor?
Pas forcément. En tout cas, mes livres, et c'est particulièrement vrai des deux derniers...
Victoria Bretagne et...
Oui,
et
voilà,
Rosa
qui
Panther.
Sont plus tirés vers la fiction hein, par rapport au matériel autobiographique
des premiers.
Ouais, des premiers, dont on pourra reparler, hein, parce que je les ai aussi construits hein, malgré tout, et avec des doses de fiction, et ça aussi on pourra en reparler. Mais ces deux derniers ont commencé vraiment avec une scène. Et pour Victoria Bretagne, qui était une histoire de fascination hein, dans une ville de province, hein, j'ai voulu faire quelque chose de post-Balzac hein, dans la province contemporaine, sur une coterie de jeunes gens qui tournent autour d'un café, qui est un peu le seul lieu irradiant d'une ville très, très ennuyeuse par ailleurs. Quoi qu'il en soit, c'était la scène où on voit la première fois le visage balafré de cette jeune fille. Tandis qu'ici, véritablement, l'idée de ce livre m'est venue avec cette idée de naufrage, qui est une scène très forte, qui a beaucoup de sens pour moi, hein, puisque l'ouverture du livre c'est de Rosa Panther, c'est sur ce naufrage dans lequel finalement James refuse de fuir le bateau tant qu'on n'a pas récupéré les animaux qui s'y trouvent. Et pour moi, c'était très très fort parce qu'effectivement, je trouve que les animaux sont embarqués avec nous dans le monde maintenant. Et que effectivement, c'est métaphorique. Il n'est pas question de les laisser tomber, de les abandonner. Et lui, voilà, il retourne dans le bateau les chercher. Et après l'histoire continue, contée par Rosa Panther.
Et il refuse de mourir d'une certaine manière. C'est à la fois c'est un naufrage et en même temps il y a quelque chose qui est une sorte de, je trouve, décision farouche de ne pas sombrer, de ne pas couler avec ce radeau de James. D'ailleurs, ce naufrage, s'il ouvre le livre, il reviendra ensuite par facettes, par morceaux, nous rappeler qu'il a eu lieu un peu plus tard, car en fait, tout est construit dans la pensée de Rosa Panther et dans une économie de temps qui est la sienne. Alors justement, comment est-ce que ça s'est déroulé pour vous dans l'écriture, Emmanuel Gattari, d'être dans cette économie de temps là?
D'abord le temps, le déroulement du temps, sa présence, c'est quelque chose qui m'a toujours, qui est présent dans tous mes livres. C'est une grande question pour moi, les temps qui se superposent, qui sont simultanés parfois. On peut avoir une simultanéité, notamment dans un livre, mais aussi dans une scène, entre le temps du quotidien, le temps d'une vie, hein, de la naissance à la mort, et puis le temps d'une époque qui va au-delà de la vie d'un individu. Et ça, je l'ai beaucoup fait, notamment dans Ciel de Loire, où j'ai questionné la présence du passé, à la fois justement encore dans le paysage, qui serait le paysage comprenant aussi les monuments, les traces des guerres ou pas, les hommages rendus aux gens morts à la guerre, qui turlupinaient beaucoup un enfant hein, dans Ciel de Loire, et avec la question de l'effacement, hein, qu'une guerre en chasse une autre, et puis une fois qu'il n'y a plus de témoins, finalement la guerre, elle peut être très reléguée finalement dans la mémoire et sur une statue que plus personne ne regarde. Et voilà, donc le temps... Peut-être parce que j'ai une formation d'historienne aussi, le temps est une dimension évidemment centrale dans le travail de l'historien. Et moi, c'est vrai que lorsque j'ai voulu, j'ai vraiment voulu m'affranchir d'une écriture historique, on va dire, professionnelle. Et c'était le souhait que j'avais quand j'ai commencé à écrire des livres, disons,
de littérature.
Fiction, oui, de littérature. J'ai voulu absolument m'affranchir de ces contraintes-là.
Notamment d'une contrainte chronologique, c'est-à-dire vraiment, pour Rosa Panther, il y a quelque chose qui est hors des horloges. Je crois que c'est vraiment d'ailleurs écrit comme tel ou hors des cadrans, qui fait que ce qui fonctionne, c'est son amour. C'est son manque, c'est sa pensée tendue vers James, c'est la manière dont il revient. Lui, il avait la possibilité de faire apparaître et disparaître les choses. De la même manière, dans la pensée de Rosa Panther, il apparaît et il disparaît. Alors peut-être s'attarder encore un instant avec vous, Emmanuel Gattari, sur la construction qui fonctionne par petits fragments, je ne sais pas comment vous les appelez, des petits chapitres.
Oui.
Et là, ce n'est pas non plus la première fois. Alors, Qu'est-ce qui vous va dans cette écriture?
Alors... C'est ma manière d'écrire les histoires. En fait, ce n'est même pas quelque chose comme une recherche absolue, hein, ou c'est comme ça que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de déperdition de sens. Après, qui n'est pas péjoratif pour les autres manières de raconter les histoires, mais moi j'ai très peur de la dilution. Et donc, il y a dans le resserrement de ces petits chapitres qui sont quand même... Il y a une unité narrative qui est non linéaire, mais il y a une unité narrative sur laquelle je travaille beaucoup, qui est faite de... qui se nourrit évidemment de la présence des personnages, déjà, et puis d'un système de renvoi de motifs, de présence, de thèmes ou de motifs qui peuvent être des motifs... Il y a beaucoup le motif de l'eau dans ce livre, notamment, et divers autres motifs qui font un système de résonance qui lie le tout.
Consciente ou pas d'ailleurs,
l'important parfois, c'est que... Parfois, même inconsciente à moi aussi, oui. qui m'apparaissent ensuite ou parfois qui me sont soulignés par les lecteurs. Et c'est toujours très passionnant pour moi de voir que mes... Et heureusement qu'il y a encore de l'inconscient dans la fiction, même quand on travaille dessus, et soi-même à essayer de la créer. Qu'est-ce qui me va ? Ce qui me va, c'est cette en fait, il me semble que si chaque chapitre est très resserré, chaque chapitre contient une unité, de toute façon, dans cette unité totale du livre. Et moi, je trouve que en fait, c'est le même matériau qu'un livre plus dilaté. C'est en fait juste plus extrait d'une certaine gangue de présentation ou de description ou de coordonnées temporelles bien établies, etc., ou de coordonnées géographiques. Ce qui fait que moi, ça me permet quand même de faire des livres qui sont, dans une certaine mesure, même s'il y a des détails historiques, qui sont atemporels. Et ça m'intéresse beaucoup.
Ce sont les fantômes qui chantent, ça qu'on entend, ça qu'on voit, qui énerve les singes. Des singes qui s'enroulent dans des draps vivants, des animaux maboules qui font bondir le blanc, des singes qui lingent la vie, c'est étonnant. Des pétrages qui sanglotent dans la pente qui descend, un toboggan pour les singes. Des singes qui s'enroulent dans des draps vivants, des animaux maboules qui font bondir le blanc, du rouge, du linge, la vie, c'est un peu flippant.
Un peu aller à ce que j'ai envie de faire sans penser que c'est ça qu'il est nécessaire de faire pour soutenir certaines théories. Je me laisse aller à ce qui m'intéresse, à ce qui commence à vivre en moi, et à ce moment-là, j'avais eu envie de reprendre quelques instants de mon enfance, des instants que j'avais choisis justement parce que la plupart du temps, j'y retrouvais ces mouvements intérieurs que j'avais appelés tropisme, faute de mieux, quand j'ai commencé à écrire. Et puis quand j'ai terminé ce livre, je suis retombée dans mes folies toujours, parce que c'est mon élément, parce que c'est là que ça m'intéresse de chercher, de travailler. Tout d'un coup, on a envie de se plonger dans quelque chose. Je ne m'analyse jamais beaucoup, vous savez. Et alors, je m'étais dit à moi-même, mais ce n'est pas possible parce que je vais être prise, je ne serai plus libre de mes mouvements, je vais être prise dans du réel, il faudra que j'adhère au réel. Tu ne vas pas faire ça, tu ne pourras pas faire ça. j'avais noté cette espèce de dialogue dans un cahier, et après ce dialogue, je l'ai repris en l'arrangeant, en le travaillant un peu, je l'ai repris dans mon livre. Et ce dialogue court tout au long du livre. C'est le dialogue entre celui qui raisonne, qui se rappelle, et celui qui sent et se laisse aller à ses sensations.
C'est la voix de Nathalie Sarraute en 1989. Vous vouliez attraper un truc dans votre sac?
Non, c'est rien. Un animal, sans doute.
C'est vrai. Bon, vous êtes venu avec beaucoup d'animaux.
Plein.
En tout cas, on entend la voix de Nathalie Sarraute. On est en 1989 et elle questionne la liberté de mouvement qu'elle aura dès lors qu'elle évoquera son enfance. Dans le livre Rosa Panther, peut-être la naissance du lien entre James et Rosa Panther fait que l'écriture revient en enfance. D'ailleurs, le motif du retour est très présent. Je suis revenue, le fait de retourner, ne pas retourner, James dit qu'il va revenir ou pas. Comme s'il y avait tout de même quelque chose de l'ordre de l'écriture, non pas qui va vers l'arrière, mais qui rend présent quelque chose de l'enfance.
Ça c'est vrai, ça c'était vrai, c'est une recherche que j'avais faite d'abord sur cette question de la coexistence de l'enfance en nous, c'est quelque chose qui me travaille beaucoup. Je pense qu'il y a un enfant en nous, ça a toujours été un mystère ce grandissement du corps et l'enfant, où est-ce qu'il est passé, il est en nous, et qui serait une image, hein, disons, de mon sentiment très fort que l'on peut ressaisir des blocs d'enfance. Je crois vraiment à ça, et c'est un travail que j'avais fait de façon très forte dans La Petite Borde, dans laquelle je voulais absolument ressaisir des impressions qui concernaient en l'occurrence une situation très particulière à laquelle je voulais rendre justice, qui était notre enfance en milieu ouvert dans une clinique psychiatrique très très libérale. Et je voulais ressaisir ces perçus d'enfant parce que je pensais qu'il y avait un rapport naturel de l'enfance avec la folie qui était loin du préjugé et qui me permettait aussi de montrer que d'être très proche de ces malades avec lesquels on était vraiment dans un collectif, hein, au quotidien, eh bien n'avait pas terni notre enfance justement, et que justement La Petite Borne est un livre sur l'enfance, et c'est souvent l'enfance que ça fait bouger chez les gens. Parce que au début, je pensais que La Petite Borde serait lue par des gens qui se sentaient concernés par la psychiatrie, par le sort fait aux malades, par l'accueil qu'il faut leur faire dans les meilleures conditions possibles. Et puis, en fait, il y a tout un autre public qui a lu ce livre, parce qu'il n'est pas difficile, parce que ce n'est pas un livre, c'est un livre que j'ai voulu être un livre de non-spécialiste, un livre assez distrayant. Il y a de l'humour aussi dans La Petite Borde, il y a des choses tristes, des choses gaies, et surtout il y a des choses d'enfance.
Et bien sûr. Et voilà. Ils sont au centre, même, les enfants, je peux dire.
Oui, justement. Et alors, mon idée, c'était qu'on peut, J'ai voulu ressaisir ces blocs d'enfance qui sont vraiment des cristals de temps qui ne sont pas corrodés par le regard adulte. Et donc, c'est probablement quelque chose qui apparaît aussi dans mes autres livres et dans ce livre-ci, donc dans Rosa Panther, parce qu'effectivement, il y a tout un travail sur l'enfance et sur ce ressaisissement d'impressions, même si la narration n'est pas tout à fait la même, puisqu'il y a une histoire dans Rosa Panther qui diffère bien, hein, de la question de La Petite Borde, qui... La Petite Borde aborde la question de la famille, de la fratrie, qui m'a permis d'approcher ce thème très très qui n'était pas un thème anodin, hein, de cette question de notre enfance, donc à la clinique de La Borde. C'était de montrer que nous, on avait eu des cadres qui étaient le cadre de, en l'occurrence pour l'héroïne du livre, la petite Manou, qui était la fratrie, la famille, et puis ensuite le cercle plus large des malades, et ensuite le monde extérieur, et que dans ces cadres-là, on avait été tout à fait capable de mener une enfance, enfin d'avoir une enfance heureuse et très assez joyeuse même.
Alors que là, l'enfance, elle intervient encore une fois dans un cadre amoureux. Si Rosa Panther va chercher l'enfance, c'est pour savoir qu'est-ce qu'elle a reconnu, qu'est-ce qui a fait qu'elle a rencontré James, à quel endroit ils se sont aimés. Elle dit à un moment donné qu'elle voit James d'une autre manière. C'est pour ça qu'elle va chercher l'enfance, pour trouver presque l'origine à la fois de son amour et de son manque.
Oui, mais parce que, effectivement, je crois à l'amour, je crois qu'on peut aimer à 10 ans. Je crois vraiment qu'il n'y a pas... Enfin, moi, c'est quelque chose que j'ai ressenti, et c'est quelque chose que je sais. Je sais, même si parfois la parole adulte minore les amours d'enfance comme étant des enfantillages sur une échelle de Richter, quelque chose de très bas ou de moins haut. Et moi, je sais qu'il existe, et j'ai voulu parler de ça, en fait, avec ce livre. Mais je crois qu'on peut aimer très, très violemment et très... très durablement dans l'enfance. Je pense même que ça peut être un marqueur de vie, et c'est ce que je fais vivre à Rosa. Et voilà, cet amour-là, même s'il n'a pas de sexualité, parce que à 10 ans, il n'y a même pas de baiser, rien. Et bien, c'est une force inouïe. Voilà, c'est une très grande passion.
Qu'est-ce qu'elle aime, Rosa Panther, chez James au début, justement? Où naît la passion? Vous la faites regarder avec émerveillement ses tours de passe-passe, son côté magicien, son rapport au cirque qui débarque pas loin. Qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, elle le regarde autrement que comme un parmi d'autres?
C'est tout le mystère de l'attachement. C'est tout le mystère de ce qui fait que c'est très curieux, l'amour, tout de même. Hein. C'est comme ça, c'est l'effet que vous fait quelqu'un, et je suis pas sûre qu'elle ait d'explication elle-même, du reste, et de cette fascination qui... Et heureusement, quelque part, qu'on sait pas qui on va aimer
et pourquoi.
Et voilà.
En même temps, j'ai l'impression qu'avec ce texte-là, c'est ça que vous sondez. C'est pas pour le décortiquer ou l'expliquer, le mystère de l'attachement. Pourquoi on s'attache à quelqu'un? Pourquoi quand il est plus là, on y pense? Pourquoi est-ce que quand il ou elle n'est plus là, il ou elle nous manque? Comme si c'était ça que vous regardiez de près avec ce roman.
Mais ce que je regarde de près aussi, et dans la continuité de cette rencontre d'enfance que fait Rosa, c'est la question du désir, parce qu'elle n'arrive pas à désirer, elle le dit, on marche dans la rue, on croise des centaines d'hommes.
Tous ces gens pas désirés, dit-elle.
Et on les désire pas, et c'est le mystère du désir. Moi, je trouve ça passionnant quand même. Voilà, qu'est-ce qui fait que soudain, votre désir s'allume pour quelqu'un et...
Je pense que, par exemple, on pourrait lire ça. Où se presse mon amour? Toujours chaque nuit, le même rêve emparadisé dans les bras de James. Une rue sans désir. Tous les gens que l'on croise chaque jour sans avoir le désir pour eux. Des foules de gens qui n'éveillent aucun désir. Des dizaines d'hommes qui n'éveillent aucun désir. Des jours, des mois, des années. Un matin, dans la rue, je ferme les yeux. Je voudrais être cette médaille, ce pendentif, qui est toujours contre sa peau, là. Sur le grand pétale de sa peau, le mystère infini du désir, cette intense propulsion de l'instant vers une chute sans bord. Chaque printemps maintenant, le cri des arbres qui ont fleuri, cri vibrant, blanc, hallucinant. L'arbre est comme hors de lui, exorbité de blanc, tendu, vibra-t-il sur son épiderme, tendu, comme exaspéré de beauté. Ses taches blanches, comme un impétigo de jeunesse, comme des pustules qui ont pris le dessus sur lui, comme des parasites, des champignons, comme des pucerons blancs. L'arbre est excédé par cette efflorescence, cet affolement blanc et rose. Je suis comme des pétales. Mon cœur est mort gelé dans l'hiver, chaque année. Tendu et palpitant dans l'automne, fatigué, il est mort gelé comme les enfants affamés devant le soupirail du boulanger. C'est un extrait de Rosa Panther, Emmanuel Gattari. Et là encore, le désir à voir avec la nature, avec le temps des saisons, avec la peau, mais en ce qu'elle a presque d'une écorce qui parle. C'est une manière pour vous de l'approcher, de le comprendre, ce désir?
Mais je pense que... Oui, mais de toute façon, je pense que nous avons, même nous, humains, saisonnièrement, des regains de... Voilà, de désir. On dit au printemps, l'amour fleurit. Bon, alors c'est...
On ne le dit pas pour rien.
Non, voilà. Puis je vais plus loin. Je pense que elle est... Rosa est dans une espèce de désir qui ne peut pas être assouvi. Et elle est dans un pur fantasme à propos de quelqu'un qu'elle ne revoit pas. Et comme elle n'arrive pas à désirer ailleurs, voilà, elle est dans... C'était... Moi, je suis très sensible aux arbres fleuris. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose de très, très puissant dans les fleurissements printaniers, et à la fois de très fragile et de très prometteur. Et moi, je voulais faire ce parallèle entre cette espèce d'exaspération amoureuse qu'elle ne peut pas assouvir et voilà, la floraison magnifique des arbres fruitiers. Par les temps qui courent, Marie Richeux.
Oui, ils sont là. C'est de quel ordre ? De la part de qui ? Qui êtes-vous, s'il vous plaît ? Qui êtes-vous ?
C'est vous.
Severino. Alors, il faudra peut-être une demi-heure pour que je trouve. Vous ne comprenez pas. Dans une demi-heure, la moitié d'une heure, vous rappelez. Rappeler, c'est appeler une deuxième fois. To call again in half an hour. Ira? Okay. Okay. À bientôt. Bye bye.
Me semble toujours appartenir à l'enfant, c'est-à-dire ne pas avoir tous les. Ne pas utiliser tous les outils sociaux de conformité qu'utilisent les adultes. Les enfants sont aussi très bien avec les fous. Ils posent pas de problème, sauf quand les fous sont machin et ça. Et puis, j'étais pour eux une jeune fille de 20 ans qui n'avait pas de label. Vous voyez, je n'étais pas, il n'y avait pas encore de stagiaire à la Borde. Donc je n'avais aucun label. Et j'étais avec eux, j'avais l'air d'être bien avec eux, et je travaillais comme les autres, enfin, qu'on appelle moniteurs, là-bas, infirmiers, sans rien demander. Comment m'ont-ils considéré, moi ? Pardonnez-moi de dire ça, mais à 20 ans, j'étais plutôt une jolie fille, donc ils riaient quand ils me l'ont demandé. Ils ont été tout à fait étonnés, tout à fait contents de voir une jolie fille les servir à table, comme ça, qui leur demandait rien. Et ils ont eu une espèce d'égalité, de proximité avec moi, immédiate, puisque j'étais personne. Et ça, c'était très important, parce que, vous savez, la hiérarchie des gens comme Uri et Félix ont eu beau se battre constamment contre la hiérarchie qui s'opère dans une clinique, un hôpital. Et moi, mon absence totale de label leur permettait de jouer avec moi, d'être totalement libre.
C'est la voix de Marie de Pusset qui vous tendait l'oreille, Emmanuel Guattari. Alors, on entendait juste avant un extrait de La Moindre des Choses, un film de Nicolas Philibert qui filmait l'endroit du standard. Ça constitue un mini-chapitre d'ailleurs dans La Petite Borde. Et puis ensuite, Marie de Pusset parlait de la manière dont elle aussi, elle était en contact avec sa propre enfance et sa liberté pendant tout ce temps passé à la Borde. Peut-être d'une part pour revenir un petit peu sur le récit que vous avez fait, plutôt les livres, voilà, plus largement que le récit, et la manière dont Rosa Panter campe aussi des personnages qui dépassent le cadre, qui n'ont pas très envie d'avoir affaire avec la norme, avec les cases.
C'est certain que j'ai choisi de faire de Rosa Panter quand même une artiste à sa manière, puisque c'est un artiste qu'elle décrit le tour du monde assez particulier qu'elle fait faire à James, qui lui-même est un artiste qui se détache. Je le fais se détacher quand même d'une famille qui, il est le seul à s'éloigner vraiment et il prend toutes les libertés. C'est un artiste itinérant. Son corps est un chapiteau puisque tous ces petits spectacles, c'est juste son corps et les oiseaux.
Il a des oiseaux sous la veste presque, oui, voilà. dans le thorax, quoi.
Voilà, il est dans un. C'est une sorte de zampano positif. Il tourne dans le monde. Par exemple, je vous dis zampano parce que dans la Strada, j'étais très frappée par ce destin itinérant de ces artistes du minimum comme ça et qui ont, en l'occurrence, James a une vraie coopération avec les animaux et il a une très grande fusion. Donc il dépasse beaucoup de normes effectivement puisqu'il en vient il finit par manger des graines par l'impression qu'il vole lui-même par moment en tout cas dans les avions parce que Oui, et Rosa, j'en ai fait un personnage qui, elle aussi, dans une ville de province, finalement, elle est au bord de la société, puisqu'elle travaille dans un club, qui est une sorte de club, elle est un peu plus ou moins entraîneuse, on va dire, même si je développe pas énormément sa biographie. Je trouve que ça, c'est une liberté de narration on peut résumer une vie en trois mots dans un livre. Dans une biographie aussi, au fait, hein, on peut dire, on peut faire passer 10 ans en trois mots. Bon, ben voilà. Et donc, c'est parce que pour elle, c'est pas l'essentiel. Donc, oui, mais ces deux personnages-là sont deux personnages qui ont un rapport au monde très particulier de toute façon, parce qu'il y a cette espèce de mystère de l'eau aussi qui est fondateur, puisque il y a un rapport à l'eau primordiale du monde qui leur semble être à la fois partout et tout autour d'eux et en même temps présenter un mystère insondable. Donc ils ont quand même un rapport à la réalité qui est assez particulier.
Est-ce que vous diriez que Rosa Panter, elle est aussi artiste parce qu'elle fabrique une forme de fiction en pensant à James, en nous racontant le tour du monde, peut-être en nous racontant son manque d'une certaine manière, elle écrit quelque chose?
Oui, mais elle est artiste aussi parce qu'elle perçoit beaucoup de choses. Elle fait très très attention à des détails extrêmement mineurs. On va dire qu'elle décrit de façon très... Elle boursoufle beaucoup le réel. Et donc dans ce sens-là, oui, elle crée beaucoup de choses dans sa solitude, sans doute. Il y a une inflation du réel autour d'elle, qui est à la fois un réel végétal, animal, parce qu'elle commande beaucoup les animaux qui sont justement dans ce décor qui l'entoure. Et ça a beaucoup de sens pour elle. Elle prête une très grande attention aux animaux autour.
Et aux détails, ce qui est assez étonnant quand on sait qu'un des livres de Marie de Pusset s'appelle « Dieu gît dans les détails ». Toutes les deux, vous avez écrit à partir d'un matériau vivant qui a été votre expérience à la Borde. Qu'est-ce que ça fait que de lire les textes des autres sur cet endroit où vous avez passé votre enfance ?
Marie de Pusset a fait un travail... Enfin, moi, j'aime énormément le travail de Marie de Pusset, pas seulement « Dieu gît dans les détails », mais tous ses livres. C'est quelqu'un qui, pour moi, c'est vraiment une très grosse perte que son décès l'année dernière. Alors, Marie de Pusset, pour ce qui concerne la Borde, ce qui était intéressant, c'était qu'elle... Elle a choisi effectivement de ressaisir le quotidien, de la vie dans la clinique. Et ce qui était, lorsque j'ai écrit La Petite Borde, je n'ai pas relu le livre de Marie qui était paru un certain temps auparavant, puisqu'il était paru, je crois, en 93, tandis que mon livre je l'ai sorti en 2012. Donc, et j'ai choisi de pas regarder. Et c'est ensuite que j'ai relu, lorsque j'ai eu fini le livre. Et ce qui était intéressant et dont je discutais avec elle, parce qu'on a présenté nos deux livres en même temps dans plusieurs endroits, c'est qu'en fait, les deux livres se comportaient comme deux peignes. Ils s'emboîtaient sur les mêmes lieux, la cuisine, le grand salon, le jardin, etc. En fait, il y avait son point de vue, elle, qui est tout de même un point de vue adulte, et le point de vue des enfants, avec évidemment d'autres... Oui, d'autres focales, on va dire, sur exactement les mêmes énergies, les mêmes meubles, etc. Et ça, ça m'a beaucoup plu de voir ça.
Peut-être que ça se concentrait autour de ces lieux parce que ces lieux étaient presque des points d'énergie extrêmement importants dans cet endroit-là et donc pour les êtres qui y passaient, pour les êtres qui y vivaient. Vous disiez tout à l'heure, Emmanuel Guattari, combien vous êtes non seulement attentive au décor, au paysage, mais au lieu. On n'a pas parlé jusqu'à maintenant de New York, Petite Pologne, mais ça aussi, c'est une forme de topographie, de géographie intime, certes, mais qui dépeint des choses. Comme si, alors sans faire de parallèle trop théorique avec les thérapies institutionnelles où le lieu est important, où il est central, il y a quelque chose de cet ordre-là dans votre écriture qui dépeint le lieu comme vraiment une force majeure.
C'est vrai. Alors, c'est particulièrement vrai donc de la psychothérapie institutionnelle qui dont l'idée était de, que vraiment le lieu contribue à permettre à la fois les circulations et les rencontres avec des gens qui parfois ont beaucoup de mal à établir le contact. Et donc l'idée que la circulation ne soit pas empêchée. Et en plus, ce qui était particulier à la Borde, c'était cette géographie avec une... Il y a un langage de la Borde, il y avait un langage topographique aussi, les lieux étaient nommés et parfois de façon assez libre, puisque je donne l'exemple de la chauffe qui, enfin, la chauffe c'était pour un service qui était, enfin, c'est une déclinaison de chauffeur, enfin, c'était pas évident, et le bureau qui,
c'était le voiturage, hein, qui vous amenait, oui, notamment à l'école, par,
voilà,
exemple.
Voilà, qui permettait même toutes les circulations, parce qu'il n'y en avait pas d'autre possible, par ce service-là, entre l'extérieur et la Borde. Et le bureau qui enregistrait les demandes de voyage dans un sens ou dans l'autre, qu'on aille vous chercher à la gare, ou qu'on vous y emmène, ou qu'on vous emmène chez le dentiste, etc., s'appelait la permanence. Et donc voilà, c'était... Et moi, je disais d'ailleurs que le mot permanence m'avait... avait ouvert pour moi des portes inouïes sur cette question de la permanence avec toutes ces déclinaisons, puisqu'il y avait de la permanence. En miroir, il y avait la disparition, et je suis très tracassée par la disparition. Et je trouvais que la permanence, mot permanence, c'est magique et c'est mensonger aussi, parce qu'il y a très peu de choses permanentes, ou alors de façon très provisoire. Donc, et effectivement, ensuite, New York, Petite Pologne, j'ai traité New York comme une traversée, en fait, effectivement. Mais une traversée d'une ville que d'habitude... une traversée au ras du trottoir et qui finit par transformer le personnage à la fin du livre, d'avoir traversé toutes ces scènes et tous ces lieux. Et...
Mais encore une fois, une forme de métamorphose par le lieu. Enfin, en tout cas, on est agi par le lieu. En vous écoutant, vous qui avez enseigné le français, à un moment donné, quand même, je me demande dans quelle mesure est-ce que votre rapport à cette langue, là, dans les mots utilisés pour désigner les services ou les lieux du Clinique La Borde, a été, alors c'est une banalité de dire ça, mais forgé dans cet endroit-là.
Ce qui a été forgé pour moi, et pas seulement, je pense, pour tous les enfants qui ont grandi à la Borde, car je n'étais pas seule, hein, on a été vraiment nombreux, et même si nous, on appartenait à un premier groupe, après il y a eu des générations d'autres enfants qui sont venus sur le site de la clinique, mais ce qui était très important, c'était la force du langage. En fait, la Borde était vraiment un lieu de circulation et d'accueil, et de bonté, hein, vis-à-vis des malades, de très grand désir d'être le moins nocif possible. Mais c'était aussi un lieu de parole, la parole n'était pas bridée, et elle c'était une parole qui, c'était très frappant d'être entouré à l'époque. En plus, il y avait... il faut vous représenter, c'est quand même... moi, je suis née au début des années 60, donc il y avait une espèce de langage encore très tenu, disons. On a reçu une très forte exigence langagière, et dont on a beaucoup profité. Les adultes parlaient beaucoup à la Borde, et les pensionnaires aussi. Il faut pas s'imaginer que, enfin, les gens avaient parfois des discours extraordinaires. Donc il y avait une plasticité du langage et une exigence aussi qui nous a beaucoup formés, forgés. Et je crois que c'est quelque chose qu'on a tous reçu en partage de cette génération.
Est-ce que vous jouissez de cette liberté-là, ou est-ce que vous avez senti la possibilité d'en jouir dans l'écriture, dans le moment du bascule à la littérature, quand vous décidez d'abandonner une écriture académique ou de recherche universitaire? Est-ce que vous avez retrouvé les joies de ce fondement?
Je ne sais pas. L'écriture, encore le passage à l'écriture, et ça. Après, c'est encore autre chose que le langage articulé, il me semble. Hein, il y a des gens qui écrivent très bien, qui parlent très mal, et l'inverse, c'est vrai aussi. Enfin, et puis la décision d'écriture. Moi, j'étais très très sensible au langage en général, et c'est des questions d'affinité. Enfant, j'étais je collectionnais les mots. Voilà, je suis pas la première, mais je collectionnais vraiment les mots, j'ai lu le dictionnaire, c'était mon livre de chevet, mes parents étaient complètement un peu interloqués, mais je lis. Voilà, c'est des affinités, je crois. Mais après, parfois, il faut justement se... La narration demande quand même qu'il y ait autre chose que juste des mots. jeté dedans. Il y a quelque chose de l'ordre de la construction et parfois, voilà, on est obligé de varier un peu le langage dans une histoire pour selon ce qu'on cherche à dire.
Ma mère, elle a quelque chose dangereuse, quelque chose d'une allumeuse, quelque chose d'une emmerdeuse. Elle a des yeux qui tuent, mais j'aime ses mains sur mon corps, j'aime l'odeur au-dessous de ses bras, ouais. Moi je suis comme ça. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. L'amour, je trouve ça toujours dans les yeux de ma mère, dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Ma mère, elle m'écoute toujours quand je suis dans la merde. Elle sait quand je suis con et faible et quand je suis bourré comme une baleine. C'est elle qui sait que mes pieds puent. C'est elle qui sait comment je suis nu. Mais quand je suis malade, elle est la reine du suppositoire. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière.
À l'enterrement de sa propre mère, ma mère était d'abord tombée comme un petit sac compact, son petit corps crispé, du siège avant quand on a ouvert la portière. Ensuite, elle était tombée dans la fosse en se penchant trop pour jeter l'immortel que lui avait tendu le croque-mort. On avait eu une peine de chien à la faire remonter parce qu'elle portait des claquettes. Elle ne s'était pas fait mal. Ma mère, tout son être tremble comme les pétales d'une pensée dans le vent froid. Elle attend que je lui parle. Elle me suit plus qu'elle ne m'accompagne. Elle attend que je la regarde, que je lui souris, que je marche avec elle plus que je ne la précède. Elle est toute dans le tremblement sans autre idée, sans autre sensation que ce désir d'être avec moi. De ce fils à papa en voiture qui venait la chercher le samedi, quel était le nom ? Ma mère, la plus belle fille de la ville, comme réponse déroulerait ses cheveux, dévalait les étages par l'escalier. Sa jupe courte est faite de morceaux de cuir de veau teint, cousu, et un petit corsage beige à manches longues et jabot. Il y avait cet été suspendu dans la lumière blanche radiante qui teinte la rue d'une sorte de gaieté, de jeunesse. Elle avait le charme spécifique des petites femmes. La même chose en plus petit. Le reste de l'enfance dans la taille du corps. La poupée. La fragile ressemblance avec les grands corps. Les petites mains, les petits pieds. Dans son visage blanc un peu luisant, ses très grands yeux du Fayoum, noirs, fiévreux, charmants de touristes, écarquillés, trop agrandis par le réveil matinal. Enfant réservé, fan délicat, soudain apparu, fugace. Immense regard sans apostrophe, fébrile écarquillement.
Emmanuel Guattari, on entend un extrait de votre texte Rosa Panther. C'était étonnant parce que je crois que c'est pas la première fois dans le texte, mais que Rosa Panther évoque sa mère. Elle parle de la mort de sa propre mère, donc de la mort de sa grand-mère. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la mort et de la disparition qui entoure la figure de la mère dans ce texte-là, Rosa Panther. Et d'ailleurs, juste après, il est question du chagrin, de la perte. Comme si... Et vous allez me dire si c'est juste la manière dont l'amour de Rosa Panther se tendait vers James avait à voir avec le manque de la mère, le manque de la mère disparue pour Rosa Panther. Comme si tous les chagrins se pleuraient dans un même chagrin.
C'est c'est triste, mais c'est possible. Oui, je pense qu'il y a, dans les deuils accumulés une espèce de survie au deuil qui fait partie du chemin qu'on mène dans la vie. Et le premier deuil est terrébrant et les suivants, si on, voilà, on est obligé de recomposer son être. Moi, je crois vraiment qu'à la suite de la disparition de ce mystère de la disparition, parce que moi je vis beaucoup avec les morts, donc je me souviens que les pertes très très violentes pour moi, qui ont constitué la perte notamment de mes parents, m'ont posé une vraie énigme, parce que la question de la disparition renvoie à la question de la présence. Et elle finalement jette une lumière surréelle sur la présence, parce que la disparition est tellement inouïe, au fait, puisque les gens sont là, puis ils ne sont plus là, et ça c'est quelque chose que j'avais dit aussi d'une autre manière dans La Petite Borde, et que moi j'ai regardé comment faisaient les autres, et j'étais très reconnaissante à une ethnie de montagne de Madagascar qui chaque année va rechercher ses morts dans des grottes, une sorte de cavité où les morts sont sous bandelettes et ils sortent le corps, ils font un pique-nique pour voilà, ils repassent du temps avec les morts. Et moi, je serais tout à fait capable de faire ça. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui, c'est parce que la séparation totale me paraissait absolument, c'était trop cruel, vraiment trop cruel, la séparation du corps en fait. Parce que l'idée, on peut toujours vivre avec, on peut toujours s'arranger avec l'idée. Enfin, mais vraiment, la séparation du corps était très difficile, et c'est quelque chose. Voilà, je trouvais qu'ils avaient trouvé une bonne solution que je comprenais. Ils font le pique-nique, puis après ils remettent le mort dans cette espèce de lieu où il est momifié. Voilà. Donc voilà, je pense quand même que l'amour pour un homme ou pour une femme, selon ses inclinations, est similaire ou une prolongation ou à l'amour des parents ou à l'amour de la mère. Je pense que l'amour à la mère est quelque chose qui, moi, m'intrigue beaucoup, que je trouve très beau, et j'ai eu la chance d'être beaucoup aimée, ce qui aussi, dans une vie, est un
beau vraiment cadeau.
Oui, voilà, quelque chose de très... Ma mère savait aimer. Voilà, c'était une de ses très grandes richesses. Donc, je rends beaucoup hommage à ma mère dans cette espèce d'amour qui n'a jamais tari, en fait. Voilà.
Parce que finalement, je dis dans mon introduction que vous sondez avec ce texte les mystères de l'attachement, mais c'est peut-être les mystères de la disparition que vous sondez plus, parce que James n'est pas là, la mère n'est plus là. Donc finalement, il y a beaucoup cette question-là. Où sont les gens quand ils ne sont plus là? Sinon dans ce qu'on écrit, ce qu'on fantasme, dans notre attente d'eux, dans la manière dont on se figure leur numéro de cirque au bout du monde.
Oui, c'est une façon de maintenir les gens, que d'y penser, ou d'imaginer qu'ils sont toujours là, juste un peu plus loin dans le monde. C'est une manière, je ne sais pas si c'est toujours bon pour la santé, mais en l'occurrence... Moi, parfois, je vais même au-delà de ça. Je suis très. J'ai fait un texte sur cette question de. Je me disais que les morts revenaient par moments nous rendre visite, et je trouvais qu'il y avait des conditions atmosphériques qui étaient favorables au passage entre les mondes. Et je trouve, j'ai toujours été très. J'ai fait des textes sur la pluie, des grosses pluies, où il me semblait que du coup la terre et le ciel se mélangeant, il y avait des zones de passage où on pouvait rediscuter avec les morts. Il y a beaucoup de conversations que j'aimerais avoir avec les gens que j'ai aimés et qui sont disparus. Vraiment, je
trouve que c'est... Vous leur parleriez de quoi?
Ah, c'est incroyable, parce que c'est incroyable, c'est sûrement lié. Je pense que tout un chacun aura vécu ça, mais on pense pas à poser des questions qui sont parfois des questions. Pourquoi vous m'avez appelé avec tel prénom? Qu'est-ce que vous pensiez de ceci ou de cela? Et c'est fou le nombre de conversations qu'on n'a pas, notamment avec ses parents. Et puis quand ils sont morts, on se dit zut, alors ça je saurais pas. Et moi, c'est parfois des choses très simples, ou juste le plaisir de toutes petites conversations. C'est pas forcément des choses très philosophiques, pas forcément, non. C'est vraiment de l'ordre de l'intime, très délicat, de
quotidien.
Oui, de l'amoureux, comme ça, très. Oui, très simple.
D'ailleurs, dans, il me semble que quelque chose de cet ordre-là se passe dans New York, petite Pologne, une arrivée de Félix Guattari à New York, et je crois que ce que je retiens, c'est plutôt, je sais pas, un déjeuner ou un dîner dans un boui-boui quelque part, dans un quartier, quelque chose de très, très simple comme ça, non?
Oui, oui, je fais beaucoup revenir mon père dans, dans plusieurs livres.
Je fais ce que je veux. Avec mémoire, je fais ce que je veux.
Mais, c'est-à-dire, oui, il est, mais en plus, il me dit, raconte-moi ta vie. Alors,
ça, après trouvais, un grand silence.
Oui, et ça, c'est, j'ai toujours trouvé que c'était une phrase, quand même, raconter sa vie, c'est quelque chose.
Comment comprendre la dernière carte postale de James, qui est arrivée après le naufrage? Je n'ai jamais pu lire la date sur le tampon. De toute façon, il disait qu'il ne rentrerait pas.
Mais justement, c'est toute cette question de savoir s'il survit encore, s'il a survécu après la date. Le brouillage des dates permet de se demander même de quand date la carte postale et à quoi elle est, à quel moment de la vie de James elle
a été envoyée.
Oui, finalement, après, on ne sait plus. On ne sait plus de quand elle date et de où il était. Et si ça pourrait très bien rétroactivement être une carte qui appartient à un autre moment que avant le naufrage. On ne sait pas.
Merci infiniment Emmanuel Guattari. Rosa Panthère, c'est le titre de ce dernier roman paru aux éditions Mercure de France. Puis on a parlé de New York, petite Pologne, on a parlé de la petite Borde, on a parlé des ciels de Loire, on a parlé de Victoria Bretagne, on a parlé... C'est tout, c'était déjà pas mal.
De Marie de Pussy. Dieu, j'ai dans les détails.
Le dernier, c'est Rosa Panthère. Par les temps qui courent, qu'est-ce qui ne vous fait plus rire?
La situation des migrants.
Par les temps qui courent, qu'est-ce qui vous manque?
Un certain regard sur les animaux.
Et par les temps qui courent, qu'est-ce qui vous donne beaucoup, beaucoup de lumière au cœur?
Qu'il y ait toujours des gens pour se soucier des autres.
Well, you play that tarantella, all the hounds will start to roar. The boys all go to hell and then the Cubans hit the floor. They drive along the pipeline, they tangle to their sore. They take apart their nightmares and they leave them by the door. Let me fall out of the window with confetti in my hair. Deal out jacks of better on a blanket by the stairs. I tell you all my secrets, but I lie about my past. And send me off to bed forevermore. Sure they play my theme song. I guess daisies I have to do. Just get me to New Orleans and paint shadows on the pews. Turn the spit on that pig and kick the drum and let me down. Put my clarinet beneath your bed till I get back in town. Let me fall out of the window with confetti in my hair. Deal out jacks or better on a blanket by the stairs. I tell you all my secrets, but I lie about my past. So send me off to bed forevermore. Just make sure she's all in calico and the color of a doll. Wave the flag on Cadillac Day and a skillet on the wall. Cut me a switch, oh, hold your breath till the sun goes down. Write my name on the hood, send me off to another town.
Par les temps qui courent, on se retrouve demain à 21h avec l'artiste Neil Belloufa, quand vous voulez sur franceculture.fr ou en podcast. Au son ce soir, c'était Delphine Baudet, à la réalisation Olivier Guérin. Jeanne Aléos, Corinne Amar, Romain Debec de Lièvre m'aident à penser cette émission et quant à moi, je réponds @MarieRicheux sur Twitter.